Chapitre 33 La Mermaid. Le petit rouffle renfermant la chambre des cartes du lynx était en fer. La porte, faite d'une épaisse tôle, avait été établie pour résister aux plus forts coups de mer. Aussi fut-elle à peine ébranlée par les coups furieux qui lui étaient assénés par Stein et ses bandits. Fernaud avait repris tout son sang-froid. La chambre des cartes était large de 3 mètres et longue de 4. Elle était occupée en son milieu par un escalier de bois à rampe d'acajou qui conduisait dans la coursive des cabines. Fernaud, d'un coup d'œil, embrassa tous les objets qui l'entouraient. Sur le tapis de jute, il distingua quelques morceaux de cordelettes, les débris sans doute des liens qui avaient servi à ligoter Stein et ses pirates. S'étant penché sur le cadavre de Watson, il vit que l'infortuné avait la gorge coupée comme avec un rasoir. La tête ne tenait plus au corps que par les vertèbres. La porte, cependant, résonnait lugubrement. Déjà les gonds commençaient à se disjoindre. Fernaud, malgré le bruit, crut entendre la voix de Chrysler. Il bondit vers une table d'acajou placée dans un angle de la cabine et qui supportait tout un attirail d'appareils de cuivre et de bobines. Il s'assit devant et, tranquillement, examina avec attention les mécanismes compliqués placés devant lui. La porte de la chambre des cartes, enfoncée, disloquée, était arrachée de ses gonds. Stein et une demi-douzaine d'assassins se ruèrent dans la pièce et ne trouvèrent personne. « Il est en bas !» gronda Stein, qui, revolver au lever, s'élança dans la descente. À la tête de ses bandits, il traversa la coursive à laquelle aboutissait l'escalier, fouilla toutes les cabines sans succès. Mais des hurlements le firent s'arrêter. Ils étaient poussés par le chef mécanicien Furkheim. Le maigre poméranien, hagard, sanglant, jaillit d'un trou de soute qui béait dans le plancher de la coursive et vint s'abattre au pied de Stein. « Je suis mort, mein Gott, mein lieber Gott. L'homme, Dermann, il m'a tué. Il a démoli le moteur, mein Gott, mein Gott. »« Infâme crétin !» répondit-il à Furkheim. Et comme le misérable, qui avait en effet une plaie béante à la poitrine, tentait de s'accrocher à lui, il s'en débarrassa à l'aide d'un brutal coup de talon en pleine face. « Venez-vous d'autres !» hurla-t-il en se retournant vers ses bandits qui s'étaient arrêtés et considéraient cette scène avec une certaine inquiétude. Mais la coursive aboutissait à une cloison étanche. Sa seule issue, en plus de celle par laquelle Stein et sa troupe étaient venus, consistait en ce trou de soute, une ouverture ronde d'un diamètre juste assez grand pour donner passage à un homme. Stein eut une courte hésitation. La bravoure n'était pas sa principale vertu. Mais il pensa à Chrysler, et cela suffit à le décider. Il arracha un des fanaux accrochés à la paroi de la coursive, et le tenant contre lui, s'engouffra dans le trou de la soute et commença de descendre en utilisant la petite échelle de fer aboutissant au rebord de l'ouverture. Au troisième échelon, il se sentit soudain saisir par le pied, il poussa un hurlement d'épouvante et lâchant son fanal tantôt de se retenir à l'échelle. En vain, une formidable secousse lui fit lâcher prise, il disparut en clamant un dernier appel. Ses hommes, bravement, firent demi-tour et s'enfuirent. Mais à l'autre extrémité de la coursive, ils se heurtèrent à Chrysler, qui de son revolver abattit le premier des fuyards. Puis, ayant ainsi calmé les autres, il se fit expliquer ce qui se passait. Sans hésiter, il marcha vers le trou béant, et ayant soulevé le disque de fonte servant à le fermer et qui était posé à quelques centimètres de l'ouverture, il le replaça tranquillement dans son alvéole. « Un homme ici !» dit-il de sa voix tranchante. « Debout sur ce couvercle. Comme cela, il ne pourra pas le soulever et fuir. Les autres, suivez-moi. Nous allons le prendre comme un rat. » En silence, mais sans enthousiasme, les bandits emboîtèrent le pas à leur terrible chef. Chrysler remonta sur le pont et se dirigea vers la claire-voie surmontant le moteur. Il se pencha dans l'ouverture et fut accueilli par une double détonation, cependant que deux balles allaient fracasser les vitres de la claire-voie à quelques centimètres de son crâne. Chrysler n'eut que le temps de se rejeter en arrière. Il fit entendre un petit rire bref et, se tournant vers ses hommes, ordonna à deux d'entre eux d'aller lui chercher un baril de soufre dans le magasin à peinture. Ce qui s'ensuivit, on le devine. Chrysler fit jeter dans la chambre du moteur des parcelles de soufre enflammées. En quelques minutes, le compartiment fut intenable. Et Ferdo, qui se trouvait au fond, dut grimper pour respirer. Il apparut soudain dans l'ouverture de la claire-voie, un revolver dans chaque main, et bondit au dehors dans l'espoir, sans doute, d'atteindre le bastingage et de se jeter à la mer. Mais Chrysler, avec sa diabolique astuce, avait prévu, deviné le projet du Canadien. Il avait fait tendre une cordelette à quelques centimètres de l'écoutille. Fernaud, aveuglé, étourdi par les vapeurs soufrées, ne la vit pas. Son pied la heurta. Il étendit les bras pour retrouver son équilibre, mais vainement. Il s'abattit sur le pont et fut immédiatement saisi par 10 mains crochues, tandis que Chrysler, triomphant, glapissait en allemand: « Ne me le tuez pas! Ne me le tuez pas! » Fernaud, ligoté au point qu'il pouvait à peine respirer, fut porté dans la chambre des cartes où il resta pendant quelques minutes, sous la garde de 4 bandits. Chrysler, qui était descendu dans le compartiment du moteur, au risque d'être asphyxié par les vapeurs du soufre, revint bientôt. Mes compliments, mon maître, dit-il au Canadien avec une ironie tranchante. Mais rassurez-vous, nous pouvons naviguer à la voile, je suis pas pressé. Tous mes compliments d'avoir placé Miss Drake dans ma cabine, j'en suis honoré. Mais, quoi que l'incendie prit ma place, je prendrai pas la sienne lorsque dans quelques heures elle se balancera le long du mât, pendue par le cou. Fernaud ne répondit pas. Il se tourna vers la paroi pour ne pas voir Chrysler et se tint coi. Chrysler, après l'avoir considéré en silence pendant quelques instants, sortit de la chambre des cartes, laissant à son prisonnier, sous la surveillance de deux hommes. Le reste de la nuit s'écoula dans le calme. Fernaud, désespéré, put entendre Chrysler et ses bandits qui traînaient des voiles sur le pont et les hissaient. Le jour parut, un jour jaune et triste. Le ciel était chargé de nuages lourds de neige. Fernaud vit arriver dans la chambre des cartes Margaret Drake et son père, portés sur des sommiers en guise de civière. Ils furent déposés à côté du Canadien. Francis Drake était à peine conscient et semblait engourdi par une torpeur voisine de la mort. Margaret, bien que très faible, avait toute sa connaissance. « Bonjour, monsieur Fernaud, dit-elle d'une voix à peine perceptible. « Ce n'est pas ainsi que j'espérais vous revoir. »« Adieu touchant, vraiment, ricana Chrysler, mais prématuré. Vous ne serez pas pendu tout de suite, mais il faut auparavant que je ranime votre père. » Afin qu'il puisse vous contempler dans la situation élevée que vous me devrez. Chrysler cracha un blasphème immonde et sortit de la chambre. La matinée passa. Sur le pont, les survivants de l'équipage s'acharnaient à enverguer les voiles. Mais malgré les vociférations et les menaces de Chrysler, le travail n'avançait guère. Les agrès étaient en très mauvais état. La nuit vint que le schooner n'avait pas encore la moitié de ses voiles en place. Chrysler fit avaler un verre de vin chaud à chacun de ses prisonniers et tint à leur annoncer que leur exécution aurait lieu le lendemain matin. Et pendant toute la nuit, le travail de mise en place des voiles se poursuivit avec ardeur, mais sans aller bien vite. L'obscurité et le froid augmentaient encore la difficulté de la tâche des bandits. La neige tomba par flocons épais. Mais Chrysler, implacable, exigea que le travail continuât. Dans la chambre des cartes, faiblement éclairée par un fanal à bougie accroché à la paroi, une température glaciale régnait. Chrysler, par économie ou par cruauté, ayant défendu d'allumer le petit poêle à gasoline fixé dans un angle de la pièce. Francis Drake était toujours dans sa demi-inconscience. Margaret était résignée. La neige tombait toujours. Il faisait encore nuit lorsque Gressler, enveloppé dans une capote de toile cirée saupoudrée de flocons blancs, fit irruption dans la cabine. Il jeta un regard aigu sur ses victimes, se secoua avec violence et, tirant sa montre, murmura: « 5 heures, vous avez encore 2 heures à vivre, miss. Et vous, 2 heures et 2 minutes, Francis Drake. Tu peux t'en aller, dit-il au Brémois qui gardait les prisonniers. Plus besoin de toi ici. » Le jour vint, si l'on peut appeler ainsi une clarté grise et triste, plus triste que la nuit. Chrysler se leva, ouvrit la porte et siffla. Urbark et 4 marins accoururent. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils soulevèrent successivement Margaret Drake, son père, puis Fernault, et les transportèrent sur le pont au pied du grand mât sous la neige. La poulie inférieure d'un palan pendait le long du mât. Un noeud coulant était attaché à son croc. L'anneau nuptial, miss! Ricana Chrysler, nerveux. Il s'approcha de Francis Drake et, se baissant sur lui, le secoua brutalement. Oh, Drake, vieille canaille! Ouvre les yeux, regarde! Ouvre les yeux, rascal, ou je te coupe les paupières avec des ciseaux! Regarde ta fille, je la pends! Pendue, regarde, tiens! Oh, tu m'offrirais maintenant toute ta fortune que je la refuserais! Je la refuserais, regarde! Passez-lui la corde au cou, vous autres, et serrez bien le nœud! Je te l'avais dit, Drake, que je me vengerais, et je me venge! Que de paroles inutiles! Francis Drake avait ouvert les yeux. Comme Fernault, il regardait, fasciné. Il vit deux des bandits, qui étaient pâles malgré tout, saisir son enfant et la soulever. Un troisième s'approcha, tenant le nœud coulant dans ses mains, qui tremblaient, de froid peut-être. Il le passa autour du cou de la malheureuse. Margaret Drake sentit le contact rude et glacé de la corde sur sa peau délicate. Elle eut un frisson violent et cria éperdue: « Pierre !» Ce fut comme si une secousse électrique eût parcouru le corps du Canadien. Il poussa une sorte de rugissement inintelligible et d'une détente de ses muscles dont la fureur et le désespoir décuplaient la puissance, fit éclater les cordelettes qui ligotaient ses poignets. Il se dressa et abattit son poing sur l'homme qui tenait la corde. Le misérable, la tempe éclatée, tomba comme un arbre scié à sa base. « Oh le !» voulut dire Chrysler, mais la voix d'Urbain courut la sienne. « Un navire !»« Un navire ?» Instinctivement, Chrysler se retourna et, à travers les flocons de neige, distingua la silhouette d'un bâtiment de guerre, coque mince et longue, dominée par 3 cheminées, d'où s'échappaient des nuages de fumée rousse. « Mais c'est la mermaid !» gronda le bandit d'une voix changée, comme si le tonnerre eût tombé à ses pieds. Ce moment de faiblesse fut bref. « Tu crèveras quand même, la belle » glapit-il, et tirant son revolver, il fit feu dans la direction de Margaret Drake. La balle passa au-dessus de la tête de Fernault et alla s'enfoncer dans le mât qui vibra sourdement. Chrysler laissa échapper une exclamation de rage et se rua vers le Canadien, lequel était déjà aux prises avec ses malandrins. « Laissez-moi passer, que je les tue! Laissez-moi passer, porc !» aboya Chrysler, écueillement. D'un coup de la crosse de son revolver, il fracassa la tête d'un des bandits qui assaillait le Canadien. Les autres s'écartèrent précipitamment. « Meurs !» cracha Chrysler, en même temps qu'il abaissait son revolver et pressait la détente. Margaret Drake, une balle dans la poitrine, tomba la face en avant, sans un cri. Fernaud avait vu. D'un formidable bond, il fut sur Chrysler, et ses deux mains musclées se refermèrent autour du cou du misérable. Chrysler, le larynx broyé, lâcha son revolver et tomba, entraînant le Canadien dans sa chute. Pendant quelques instants, les deux hommes, haletants, cherchèrent mutuellement à en finir. Ils étaient robustes tous deux et enragés par une même haine. Le Canadien eut le dessus. Il sentit que Chrysler s'abandonnait, mais continua à lui serrer le cou jusqu'à ce qu'il ne bougeât plus. Sur le pont du Schooner, des pas précipités retentissaient. Une douzaine de marins américains apparurent, les baïonnettes de leurs fusils luisant faiblement sous la neige. « À moi, ici !» cria Fernaud à bout de force. Chrysler avait bien deviné. Ce navire, qui venait malgré la neige, malgré l'obscurité, de pénétrer dans la baie de Soubinsk, alors que la plus élémentaire prudence conseillait à son commandant d'attendre une éclaircie pour risquer ainsi son bâtiment, ce navire, c'était la Mermaid. Le petit croiseur américain qui, quelques mois auparavant, avait arraisonné l'Adler, et que Chrysler, à la faveur du cyclone, avait si dextrement semé après avoir assassiné les marins placés à bord du yacht par son capitaine. Et ce n'était pas par pur hasard que la Mermaid arrivait. La Mermaid avait été désignée par le gouvernement américain pour surveiller les pêcheurs yankees du détroit de Bering et leur porter assistance, tout comme le font les navires de guerre français sur le banc de Terre-Neuve. Et la Mermaid se dirigeait vers le Japon pour y charbonner, lorsque son capitaine avait reçu par sans fil cette laconique dépêche. Prière à tout navire de guerre de venir d'urgence baie de Sourbinsk, côté est de Sakhalin. Chrysler, ancien capitaine du yacht Adler, alias Eagle de Southport, qui a échappé au croiseur américain Mermaid après avoir coupé le câble Yokohama-Vancouver, se trouve dans la baie avec le schooner Lynx et tient dans son pouvoir le banquier Francis Drake et sa fille qui se proposent d'assassiner. Et ce radiogramme, c'était Fernaud qui l'avait envoyé. Dans la chambre des cartes du Lynx se trouvait un appareil de TSF. Le Canadien, tandis que Stein et ses hommes frappaient à tour de bras pour enfoncer la porte, en avait profité pour envoyer son message, sans savoir qui le recevrait, ni s'il serait reçu. Et c'était le capitaine de la Mermaid qui l'avait reçu. En quelques brèves minutes, tout fut réglé. Lorsque Chrysler revint à lui, il vit qu'il se trouvait dans une cabine aux parois de tôle, pieds et mains enferrés, et à son côté, un marin américain, baïonnette au canon. Sur le bonnet de son gardien, il lut le nom Mermaid et comprit quel allait être son destin. Margaret Drake avait le poumon perforé. En la voyant, le médecin de la Mermaid désespéra de la sauver. Elle vécut pourtant. Et 3 jours après la tragédie de Sourbinsk, elle fut débarquée à Yokohama avec son père, guère en meilleur état qu'elle. Mais les soins, la joie de la délivrance et aussi la jeunesse vainquirent la mort. En moins de 6 semaines, Margaret Drake fut sur pied. Son père fut plus long à se remettre, si tant est qu'il se remit. Francis Drake, vieilli prématurément, ne devait jamais retrouver sa santé d'antan. Le mariage de Pierre Fernault et de Margaret Drake fut célébré à Yokohama. Contrairement à tous les usages, ça avait été Francis Drake qui avait interviewé son futur gendre. Il savait le Canadien trop timide pour jamais se déclarer. Carl Kressler fut traduit devant le jury après que la mermaid l'eut emmené à San Francisco. Tout d'abord, il voulut nier ses crimes, mais urbâ que les survivants de son équipage de scélérats, dans le but de sauver leur coup de la potence, avouèrent tout, et avec autant de détails que l'on voulut. Kressler fut à l'unanimité reconnu coupable d'assassinat, de piraterie, de faux et usage de faux, et condamné à mort. Urbâ que les autres marins de l'Adler ne furent pas plus heureux malgré leurs aveux tardifs. Et Francis Drake, ayant mis au clair les machinations du bandit, rentra en possession de ses biens qui faisaient de lui un des plus puissants financiers de l'Union. Pierre Fernault a renoncé à naviguer. Il dirige maintenant une des principales compagnies de navigation américaine et est heureux. Il l'a bien gagné.